Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes en septembre, le 1er septembre. Fin de mois en pente douce sur les marchés. On s'est contenté de jouer la montre pour remporter le quart de finale et se qualifier pour les demi du mois de septembre et les demi du mois d'octobre et la grande finale de 2021 qui se jouera entre novembre et décembre avec le Covid et son ami Delta pour arbitrer le match. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas quand est-ce que la rentrée des investisseurs est programmée, mais disons que je me réjouis que ça s'active un peu et que l'ambiance devienne un peu plus volatile. Non, parce que là, j'arrive à un stade de rien dire que j'ai l'impression d'avoir le droit de demander mon avocat. Si l'on se concentre sur les variations des indices d'hier soir, il ne s'est rien passé. Le plus fort mouvement indiciel constaté sera probablement Londres qui baissait de 0,4%, mais qui regarde encore le marché anglais aujourd'hui. Qui est intéressé par des pens ou des pounds avec des market makers qui sont à peu près aussi honnêtes qu'Al Capone dans les années 30? Celle d'il y a 100 ans, pas celle qui arrive. Après Londres, il y avait l'Allemagne qui affichait une forte correction de 0,3%. Quant au reste, c'était tellement marginal que l'on aurait presque pu confondre la hausse et la baisse. La seule chose que l'on notera, c'est que cette fois, le S&P 500 n'a pas terminé en hausse et n'a pas battu son 54e record de l'année. Il faudra attendre encore un peu. Pour le moment, les marchés donnent l'impression de s'interroger sur la suite. Doit-on se prendre la tête avec les problématiques de l'inflation, de la Chine qui part en vrille gentiment, d'un point de vue économique et d'un point de vue politique, ou alors doit-on avoir peur du Covid qui continue de monter? Bien que Pfizer montre un peu partout que ses vaccins sont géniaux et qu'ils marchent tellement bien que si ça se trouve à la 5e dose, tu gagnes le Tour de France sur une jambe. On se pose pas mal de questions et dans le doute, comme disait l'autre, on a l'air de s'abstenir. Et puis en même temps, on sait que vendredi, il y a les chiffres de l'emploi et que ça c'est encore un truc qui pourrait changer le monde. Enfin, comme tous les vendredis, serais-je tenté de dire. Alors que les marchés occidentaux terminaient le mois dans une léthargie qui aurait donné envie de rester au lit toute la journée, pour dormir d'ailleurs, on se pose de plus en plus de questions sur la Chine. L'ingérence du gouvernement dans les affaires financières prend de plus en plus de poids et Xi Jinping semble repartir dans une sorte d'extrémisme qui commence presque à faire peur. Pas un jour ne se passe sans qu'une mauvaise nouvelle provienne de là-bas et n'impacte le monde financier. Aujourd'hui, on parle d'Evergrande. Evergrande est l'un des plus gros mastodontes chinois. Le groupe pourrait employer 200 000 personnes et générer 3,8 millions d'emplois en Chine. L'immobilier est sa principale activité, son fondateur serait la cinquième fortune du pays. La société est fortement endettée et le ralentissement actuel semble l'empêcher de rembourser ce qu'elle doit. Les autorités chinoises ont convoqué la société afin qu'elle résolve ses problèmes de trésorerie et qu'elle évite la faillite. Faillite qui aurait des conséquences dramatiques pour la Chine. Serait-on en train de vivre un moment Lehman Brothers en Chine? Plusieurs experts pensent que nous n'en sommes pas très loin. Ce matin, l'Asie n'en fait pas cas puisque les trois indices de référence sont en hausse de près de 1%. Mais il faudra tout de même surveiller les voyants d'alarme qui s'allument sur le tableau de bord de Pékin ces prochains temps. Pour le reste, je sais bien que la seule chose qui nous intéresse, c'est les chiffres des non-farm payroll qui sortent vendredi ou la limite les jobless claims de demain, vu que Powell ne regarde que ça, mais dans d'autres chiffres économiques, le Chicago PMI a été publié hier et franchement, on a connu des données économiques durant la grande récession qui étaient meilleures que ça. Le Chicago PMI a donc chuté à 66,8 en août par rapport au mois dernier où il était à 73,4. La confiance du consommateur était toute pourrie. On dirait que Joe American ne veut plus consommer ou alors c'est qu'il n'y a plus rien à consommer parce que les bateaux sont coincés en dehors des ports et que personne ne veut bosser pour les déchargés parce qu'ils préfèrent devenir crypto-trader et finir millionnaire au mois d'octobre. Et puis, il y a les prix des logements qui ont augmenté de 18,6% en juin contre 16,8% en mai. Alors moi, je suis pas expert en inflation ni en comment on la calcule, mais disons que quand je vois l'augmentation des prix du logement, je me demande comment on fait pour dire que l'inflation est maîtrisée quand ce genre de chiffre est publié. On peut aussi se demander à quel moment le marché va s'y intéresser et quelles sont les conclusions qu'il va en tirer. Je sais que pour le moment, nous sommes en mode « les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles » et « les bonnes nouvelles sont définitivement des bonnes nouvelles », mais à un certain moment, il y a la réalité qui arrive et qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, compliquer les choses. Et je ne dis pas ça parce que depuis ce matin, nous sommes en septembre et qu'en septembre, comme disait Mark Twain, septembre est un mois particulièrement dangereux pour spéculer en bourse, mais il y en a d'autres, juillet, janvier, octobre, avril, novembre, mai, mars, juin, décembre, août et février. Alors, pour être franc, c'est inexact puisque la citation commençait par « octobre est un mois particulièrement dangereux », mais bon, ça jouait pas parce qu'on est en septembre et puis comme ça, je pourrais la réutiliser en octobre De toute façon, vous aurez déjà oublié. Pendant que l'Asie cherche à retrouver des couleurs et à se dire que ça va aller en Chine, malgré l'avalanche de mauvaises nouvelles quasi journalières, l'or et le pétrole ont décidé de jouer à celui qui sera le plus immobile. Les deux matières premières phares semblent attendre ne plus vouloir bouger. On se demande quel catalyseur pourrait les secouer et les sortir de leur torpeur. Pour le pétrole, ça pourrait bien être la réunion de l'OPEP agendée pour aujourd'hui, mais pour l'or, on se demande ce qui pourrait l'aider. Du côté des cryptos, ce matin, c'est le Bitcoin qui est dans le coma, pendant que son collègue l'Ether s'envole de plus de 5%. Pour être franc, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, tant que mon compte de crypto trader est dans le vert, ça me va. On notera qu'un ex-trader de chez Goldman, qui est devenu hedge fund manager dans les crypto-monnaies, estime que selon sa propre recherche à lui-même personnellement tout seul, le Bitcoin devrait atteindre les 250 000 dollars d'ici le mois de mars et que l'Ether devrait suivre, mais n'aller qu'à 20 000 dollars. Je suis impatient de voir tout ça. Lorsque l'on dit que la rentrée pour les investisseurs se situe autour du 15 septembre, je pense que l'on doit avoir raison, mais en plus, je crois que les nouvelles financières et les journalistes financiers sont aussi en vacances jusqu'au 15, tellement c'est maigre. Retenons simplement que Joe Biden s'est adressé à la nation pour expliquer que le retrait de l'Afghanistan était extraordinaire, que c'était la décision à prendre et qu'il était beau, fort et intelligent. Non, ça, il n'a pas dit. Il a aussi estimé que les USA ont fait un boulot fantastique lors du départ de Kaboul. Apparemment, les familles des soldats qui ont explosé dans l'attentat de l'autre jour sont moyennement d'accord avec lui. Mais lui, il pense que tout était parfait. Bon, il n'a pas dit qu'il avait gagné la guerre, mais pas loin. On notera que la Corée du Sud a passé une loi qui pourrait peser sur les revenus locaux d'Apple ou Google sur les apps. Et pour le reste, on se demande si septembre sera pourri ou pas. Je dirais que les bookmakers doivent être à 50-50. Certains disent que l'histoire est pour nous et que chaque fois que l'année était si bonne en août, elle a été encore meilleure après. Et les autres disent que le S&P 500 corrige presque chaque année d'au moins 5% et que ça ne s'est pas encore produit. CQFD, maintenant on peut corriger de 5% et finir au plus haut de tous les temps à Noël quand même. Ce qui fait la beauté du sport d'ailleurs, puisque rien n'est impossible en finance, même l'impossible est possible. Côté chiffres économiques, nous attendrons les PMI en Europe et puis aux States, il y aura les chiffres de l'emploi ADP qui sont censés nous donner un avant-goût de vendredi. En plus de cela, il y aura aussi le Manufacturing PMI et l'ISM Manufacturing. L'OPEP se réunira et demain sera un autre jour. Pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,25% et on a l'air de vouloir commencer le mois sous de bons auspices. Il fait même beau dehors, enfin... je crois. Passez une excellente journée, on se retrouve demain. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram sous morningbull_world. Il y a plein de choses qui arrivent. Et puis, je suis aussi sur la chaîne Swiss Code Suisse pour le Morning Bull Live dans 2 heures. Là aussi, il faut vous abonner à la chaîne. J'ai un challenge à battre avec mes collègues. Allez, soyez forts et à demain.